I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle qui n'est pas bimensuelle mais qui est hebdomadaire depuis bien longtemps. Il faudrait que tu commences à le retenir, Patrick. C'est l'épisode numéro 411. On est en juillet 2021. Il fait beau, il fait chaud. Ils sont beaux, ils sont chauds, ce sont les Fabulous, en tout cas deux membres du groupe des Fabulous, que sont Cédric et Jérôme. Corben est malheureusement un petit peu occupé, mais du coup, un peu de sa fabulouserie retombe sur vous deux, et je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui dans l'émission, d'autant plus qu'on va avoir des sujets extrêmement intéressants, un menu varié, garni, avec un méli-mélo de news réseaux sociaux en entrée, et puis après, bon, des plats de résistance sur des moteurs de recherche pour lesquels il faut payer. Ça vous intéresse, ça? On a aussi des affaires réglementaires et légales et politiques extrêmement intéressantes. Plein de choses. Comment ça va, les deux Fabulous qui sont là? Vous êtes en forme?
Ouais. Prêt?
Ouais. Ça va juste être une torture. Mon repas vient d'arriver. Il est à moitié. J'ai pas le droit de manger, quoi. et en plus, c'est de la nourriture mexicaine. Donc, ça va être une torture pour
le Rendez-vous Tech, c'est un exercice de volonté.
Exactement.
Non, mais tu sais quoi, Jérôme? On est entre nous. On est entre amis.
Je fais déjà une émission live tout en mangeant. C'est une catastrophe. D'abord, le micro, il faut le nettoyer au Karcher après. Donc, je ne le ferai pas.
D'accord. Bon, écoute, comme tu le sens. Avant de se lancer, on va quand même dire merci aux auditeurs qui soutiennent le Rendez-vous Tech sur Patreon, à savoir spécifiquement Hélène Nivrae, Alexandre André, Charles Repin, Antoine Juillet, Valet Mathieu. Merci à vous tous et également à quelqu'un qui a réussi à trouver le niveau secret des producteurs, Peter Rigal, qui m'a envoyé un petit message très gentil où il me dit qu'il écoute depuis l'époque d'Azeroth.fr. Rendez-vous compte. Il m'a dit « Oh, ça doit faire 10-11 ans, Azeroth.fr ». Et non, ça fait 12 ans depuis la fin d'Azeroth.fr. Donc, ça veut dire que s'il écoute depuis plus longtemps, c'est encore plus long que ça. Rendez-vous compte. Je ne sais pas si c'est très bien d'appuyer à ce point sur...
sur la vieillesse, je ne sais pas.
C'est de l'archéo-podcast. Hein,
exactement. Ouais, exactement. Ouais. En tout cas, merci Peter et Hélène, Alexandre, Charles, Antoine et Mathieu. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech sur Patreon. Alors, je disais, on a un méli-mélo de news réseaux sociaux avec plein de trucs intéressants qui se passent. Mais avant ça, j'ai la news de la semaine, la plus importante de très très loin. On a vu dans la nouvelle version de Windows, Windows 11, qu'ils avaient opéré un changement de philosophie majeur qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant et qui vraiment, je pense, va transformer la manière dont on considère Windows et dont le monde pense aux OS. C'est-à-dire qu'à partir de Windows 11, le blue screen of death ne sera plus bleu, mais noir. Et je trouve le coup magistral parce que ils ont changé la couleur, mais c'est toujours BSOD, c'est plus blue screen of death, mais black screen of death. Ça, c'était une information qui m'a quand même fait reconsidérer ma vie un petit peu, hein, je vous avoue.
Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que dans 15-20 ans, des gens vont tweeter des blue screen of death en disant « il n'y a qu'une génération qui peut comprendre ce qu'on a en
train de dire ». C'est ça.
C'est comme les photos de disquettes, tu sais, tout ça.
Ouais, c'est ça, ouais.
Si vous n'êtes pas né avant 2012...
Ouais, un crayon et une cassette. Il n'y a qu'une génération qui peut comprendre le rapport entre ces deux-là.
C'est ça, ouais, exactement. Bon, trêve de plaisanterie, malgré l'intelligence du BSOD, on a effectivement des news vraiment intéressantes. Vous vous souvenez que le président Donald Trump avait indiqué qu'il pourrait se relancer dans l'activité des réseaux sociaux malgré son bannissement de différentes plateformes comme Twitter et Facebook, eh bien, il y a un nouveau réseau social qui a été lancé qui n'est pas ceux vers lesquels se sont dirigés les, on va dire, conservateurs américains comme Parler ou Gab ou ce genre de choses. C'est un réseau social qui a été lancé par, on va dire, des gens proches de Donald Trump, même si lui n'y est pas encore. Il s'appelle Getter, G-E-T-T-R. Ils disent que c'est un truc du genre Get Together ou un truc comme ça, rassemblons-nous. Getter, ça fait quand même, ça sonne un petit peu Get Her, genre chopons-la.
Ouais, ça fait un peu chopons-la, ouais. Par les cheveux, par exemple, pour rappeler des petites phrases de notre cher Donald Trump.
Ouais, c'est ça, exactement.
Grab them by the... Voilà.
Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas appelé Trumpette. Ça aurait été bien comme Trumpette.
L'icône, tu te trouvais.
Voilà, il y avait tout un univers graphique, tu vois. Ah, tu donnes des coups de Trumpette et tout. Non, ça aurait été génial.
Ouais. Figure-toi que le réseau en question, il a été déjà hacké. Bon, pas un hack très violent, hein. Ils ont juste changé les noms de certains utilisateurs. Ça a été corrigé très vite, mais tout de même. Et en plus, le réseau a visiblement été envahi de d'images à caractère pornographique de Sonic le Hérisson. Vous savez, le oui. Personnage de Sega.
Est-ce que vous avez été voir Est-ce que vous l'avez testé vous-même?
Non, moi, je t'avoue que je suis allé sur le site, j'ai regardé un petit peu ce qu'il proposait, mais je t'avoue que je n'ai pas créé de compte, par exemple.
Ah,
je ne suis pas très,
si,
très
hein,
motivé.
Je me suis amusé.
Ah oui, d'accord.
Je me suis amusé. Bon, après, je l'ai supprimé, mais je me suis amusé et j'ai regardé surtout ce qui s'est passé dessus, mais
Donc, bon, au-delà de la blague, c'est quand même intéressant parce qu'on se demande si ça va être une alternative. Ça ressemble vraiment, vraiment très, très fort à Twitter. Hein. C'est carrément... c'est Twitter.
C'est une copie. Ils sont pas embêtés. Hein.
Et du coup, et même graphiquement, je veux dire, ça ressemble dans tout l'agencement de l'interface. C'est vraiment, vraiment Twitter. Ceci dit, ça va. Le président américain Donald Trump n'a pas encore rejoint le réseau. Et j'imagine qu'il attend de voir si ça va fonctionner ou pas avant de le rejoindre. Mais ça va nous donner la réponse de est-ce que certains groupes, parce que si... les républicains partisans de Donald Trump, qui est encore très populaire, ne réussissent pas à créer une alternative à Twitter, ça nous donnera un enseignement, on va dire, intéressant sur les possibilités de trouver des alternatives à ces réseaux par volonté politique, parce que c'est vraiment de ça qu'on parle ici.
Ouais, après, on peut regarder de manière inquiétante aussi. C'est vrai que si ça prend même un tout petit peu... Là, c'est le boulevard à mon avis, ce qui est le plus gros problème actuellement d'Internet en général, c'est la polarisation. C'est-à-dire que là, les gens se réfugient dans des niches de leur pensée, dans des bulles de plus en plus. Et ça va donner des choses complètement dramatiques. Et on en a vu déjà des extraits cette année, quoi.
Moi, ce que je pense, alors il y a effectivement des gens sans doute très à fond dans leur truc qui s'inscrivent sur le réseau. Je pense que ça risque de ne pas prendre de manière significative parce que t'as pas du tout de conflit, d'opposition. C'est que des gens qui pensent exactement de la même manière et donc il n'y a pas de motivation
à débattre, à convaincre.
C'est ça. Mais peut-être, je ne sais pas, on verra. On verra ce que ça donne dans quelques mois. Cédric,
ouais,
toi, tu as un avis sur la chose?
Non, mais je suis... c'est encore une fois une histoire de bulle. Les réseaux sociaux, déjà, nous enferment dans ce biais de confirmation. Mais là, en plus, c'est un réseau social de gens qui sont, qui sont pro-Trump. Et quand ils annoncent que, justement, ce sera un réseau social sans biais... je ne suis pas trop d'accord, mais ça me rappelle finalement un petit peu ce qui s'était passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la dernière présidentielle en France, la France Insoumise avait sauté sur Discord, sur le fait de créer des communautés, etc. Et en fait, finalement, ces communautés avaient fait pchit toutes seules, dans le sens où bon, les gens débattaient entre eux, étaient plus ou moins d'accord de toute façon tous entre eux, et au final, les choses ont fini par disparaître, quoi, en fait.
Ouais, donc, là, je, Ouais, je vous rejoins que c'est vrai que ces mouvements se complaisent dans la contestation, et s'il n'y a pas de contestation,
ouais, c'est ça. C'est,
ils n'ont pas d'engrais, quoi. Donc ça a du mal à pousser, quoi.
Bon, ceci dit, Fox News, par exemple, prospère totalement et il y a rarement de la contestation sur leur antenne, même si ça peut arriver. Donc bon, à voir. Le grand moment de validation, ça sera si le président américain rejoint le réseau, si Trump crée un compte sur ce réseau.
Oui, c'est ça.
Parce qu'on se souvient qu'il y a quelques semaines, quelques mois de ça, il avait créé une sorte de microblog sur son site web qui était From the Desk of President Trump ou From the Desk of Donald Trump, et ça avait fait pchit au bout de quelques semaines, personne. Mais c'était juste un site web en fait, sur lequel il pouvait mettre des messages en forme de tweet. Bref, on verra. Et oui, pour préciser ce à quoi tu faisais référence, Cédric, tout à l'heure, c'est le fait qu'ils disent protéger la liberté d'expression parce qu'ils se sentent censurés sur les autres réseaux qui suppriment certains sujets ou certains comptes qui sont considérés comme violents ou offensants ou ce genre de choses.
Ouais, donc, mais du coup, déjà parlé de tout moi, ça, ce que j'aimerais voir, c'est le jour où des gens modérés vont venir poster des choses sur leur réseau. Est-ce qu'ils vont les supprimer parce qu'ils sont trop modérés, justement?
Ça, je pense que ça va pas se produire. Mais par contre, il va y avoir une question sérieuse quand ils vont avoir des problèmes auxquels sont confrontés tous les réseaux sociaux de ce type-là, des contenus vraiment dangereux dont ils peuvent être tenus pour responsables sur le réseau s'ils ne font rien pour le supprimer, des contenus, je ne sais pas, illégaux, ce genre de choses. Bref, on en reparlera.
Programmer tout ça, quoi.
Par exemple. Mais pas que ça, il peut y avoir des choses bien...
Non, bien sûr. Non, mais ça fait partie des choses illégales.
Ouais.
Déjà, la moitié... Juste pour info, quand même, la moitié des... Quasiment... Enfin, je dis la moitié, j'exagère, mais... Mais une grosse partie des gens sur ce réseau social avaient en photo de profil ou en bannière en haut le drapeau confédéré. Qui pourtant est aujourd'hui plus un élément vraiment autorisé aux États-Unis.
Ah oui, non, pour le moment.
Voilà, mais ça les gêne pas. Sur ce réseau, on est libre.
Oui, hein. Si tu vas dans le sud, tu peux en voir de moins en moins maintenant.
Oui, bien sûr.
Oui. Et bien justement, pour les réseaux plus classiques, Twitter est en train d'étudier certaines fonctionnalités qui pourraient être intéressantes, comme le fait d'avoir des tweets réservés aux amis proches. Il y a déjà cette fonctionnalité sur Instagram. Et encore plus intéressante, une possibilité d'avoir plusieurs, on dit en anglais plusieurs, c'est persona, donc identité, plusieurs personnalités, identité, et de pouvoir tweeter uniquement à certaines de ces... sur certaines de ces personnalités. En fait, c'est des sortes de sous-comptes Twitter. Moi, par exemple, je pourrais mettre que mes personas, c'est perso, donc ma vie personnelle, la tech et le gaming. Et puis, les gens qui me suivent décident de me suivre pour perso et tech, par exemple, et ils n'auraient pas les tweets que je marque comme étant du domaine du gaming. Donc, ça serait un moyen de suivre quelqu'un sans suivre tout ce que cette personne dit, uniquement pour ce qui nous intéresse chez cette personne. L'exemple que j'ai pris n'est pas anodin, puisque c'est un des, entre guillemets, soucis que j'ai avec l'utilisation de ce site. Mais c'est encore en phase de développement initial, donc on n'est pas du tout dans un truc qui va arriver demain, hein, c'est quelque chose qu'ils étudient. Moi, je crois que ça pourrait être intéressant. J'hésite, en fait, et vous pourrez me dire ce que vous en pensez. J'hésite entre ça pourrait être super intéressant et c'est genre, c'est comme les listes, on passe du temps à les faire et puis finalement, on ne suit pas tellement ce qui se passe. On ne l'utilise plus au bout d'un moment parce que c'est trop compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Moi, c'est je pense que... Vas-y.
Ok. Mais en fait, c'est l'approche des cercles de Google+. Hein.
Oui.
Je
ne
sais pas si vous souvenez. Hein. On était vieux à l'époque. Mais c'était l'approche des cercles de Google+. Et c'est aussi l'approche, finalement, de Facebook avec la possibilité de trier ses contacts et de poster des choses qui soient ou publiques ou uniquement pour ses amis proches ou les amis de ses amis, etc.
C'est un peu différent parce vraiment... que... c'est pris à l'envers en fait. Les cercles, on doit les créer nous-mêmes pour et gérer ces cercles. Et quand, vas-y, je te laisse.
Non, mais en fait, oui. La différence, c'est que au lieu que toi, Patrick, tu définisses les groupes en fait. C'est les gens qui finalement
s'abonnent. C'est ça.
Voilà, s'abonnent donc, à telle facette. Mais voilà,
le gros avantage, c'est que ça ne nécessite pas de maintenance. Tu n'as pas besoin d'ajouter des gens et les supprimer. Ouais.
Alors oui et non, parce que je crois que celui qui s'appelle Ami Proche, c'est celui de... C'est à toi de le faire, en fait.
Ça, oui, mais pour... Je parle des personas.
En fait, là, on parle des facettes, là, des personas.
Des facettes,
ouais. Oui, mais en fait, il en... mais, tout à fait, mais en fait, il lance les deux fonctionnalités. Oui. Il lance amis proches et facettes. Effectivement, facettes, moi aussi, c'est pareil. Hein, j'ai ma facette, entre guillemets, professionnelle, ma facette personnelle et ma facette du studio. Enfin, effectivement, les gens pourraient choisir. Ben non, je veux avoir que les tweets qui parlent de tel ou tel sujet. Bon, why not?
Moi, je pense que c'est pas utile. Ouais.
Moi, je pense. Oui. Alors, autant le côté ami proche, je sais pas, Twitter, moi, je m'en sers pas du tout pour ça.
Non.
Autant les facettes, je trouve ça intéressant, mais il faudra limiter. C'est-à-dire, si on peut créer autant de facettes qu'on veut, on va avoir Jérôme du matin le lundi, qui n'est pas de la même humeur que Jérôme du soir le vendredi. Non, puis ça peut devenir n'importe quoi, mais c'est assez bien calqué à. En tout cas, pour moi, je vois mes usages des réseaux sociaux. Moi qui ai tendance à de plus en plus garder une vie privée, c'est-à-dire le Jérôme de la ville, j'en parle de moins en moins et c'est Jérôme Naotech qui parle exclusivement. Je trouve ça intéressant parce que même mentalement, pour nous, ça nous oblige aussi à faire l'exercice pour qui je tweete, à qui je raconte ça. C'est intéressant. À creuser. Par contre, je pense qu'en termes d'interface, il faudra qu'on ait un moyen, je sais pas, par un hashtag ou une commande clavier, de pouvoir le déterminer, parce que s'il faut sélectionner un truc chaque fois que tu tweets, ça va vite devenir relou, quoi, en fait.
Jérôme, on lui demande de faire une sélection en plus.
Non, pas d'effort, moi, ouais. Il faut que tout soit pré-mâché, moi. C'est...
Écoute, tu vas pouvoir me dire si les efforts de TikTok pour essayer de se rapprocher petit à petit de ton domaine de prédilection YouTube, eh bien, est-ce qu'ils pourraient être voués au succès? En fait, TikTok, bon, j'exagère un petit peu, je prends des raccourcis ou en tout cas, je regarde un petit peu plus loin que là où on est aujourd'hui. Les vidéos TikTok étaient limitées à 1 minute, si je ne m'abuse, jusqu'à maintenant, et elles vont être désormais limitées à 3 minutes. C'est intéressant parce que on se souvient que YouTube avait commencé avec des vidéos très très courtes au tout départ et que petit à petit, ils ont commencé à mettre l'emphase sur les vidéos de plus en plus longues. Au bout d'un moment, ils ont privilégié le temps d'engagement des spectateurs, ce qui a allongé la durée des vidéos sur YouTube parce qu'elles étaient plus mises en avant dans l'algorithme, etc. TikTok connaît quand même un succès absolument insolent. Et on peut se demander s'il n'y a pas enfin un réseau qui serait capable de, à terme, hein, c'est pas aujourd'hui, c'est pas avec des vidéos de 3 minutes, mais peut-être à terme, rivaliser avec YouTube dans 2, 3, 5 ans. Est-ce que c'est une possibilité, Jérôme, ou on reste dans des univers tellement différents que ça te paraît peu probable ?
Ah, encore une fois, pour analyser ce genre de choses, il faut comprendre pourquoi ils font ça et comprendre le marché publicitaire, parce que c'est le nerf de la guerre. Comment tu finances tes serveurs, ta bande passante. D'augmenter la durée de tes vidéos, ça va tirer sur leur bande passante, ça va leur coûter plus cher, donc c'est pour attirer des contrats publicitaires. Plus les vidéos sont courtes, plus ton public est jeune. Plus les vidéos sont longues, plus le public est vieux. Plus le public est vieux, plus les pubs rapportent. Voilà, c'est pour résumer un petit peu les choses. C'est la tendance lourde de la vidéo. Plus on va vers la vidéo longue, plus on va vers des revenus publicitaires qu'on va piquer à la télé, en fait. Donc c'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, le marché, on va dire, de la pub qu'on met sur des vidéos courtes, il est archi saturé. Et en plus, ben, les jeunes, il n'y a qu'un nombre très limité de pubs qui peuvent être vraiment intéressantes pour les jeunes qui ont en plus un revenu assez limité. Donc oui, enfin, je vois pas TikTok devenir YouTube parce que d'abord, ils n'ont pas les reins assez solides.
Ah ouais. Il y a quand même des gens derrière. Les... Je te dis pas demain, mais
ouais, il va falloir. Ouais, tu sais, quand même, YouTube, c'est ou alors ils auront une stratégie différente de YouTube, notamment le stockage des vieilles vidéos. N'oublions pas que YouTube, 97% des vidéos sont à peine vues, et pourtant elles sont sur YouTube. Ça demande des capacités googlesques de bande passante, de serveurs. Ils ont optimisé ça depuis 15 ans, YouTube. C'est... Moi, pour moi,
toi, hein,
ça reste... Ben, y a que Amazon, moi, qui peut faire un YouTube-like aujourd'hui. Il n'y a que Amazon avec Twitch. Si un jour Twitch dit bon bah maintenant on peut héberger vos vidéos, on fait pas que du live, là Twitch peut faire très mal à YouTube. TikTok, non, parce que y a, en plus il y a une grosse génération qui est pas du tout TikTok et c'est celle qui a le plus d'argent en fait. Donc je vois pas les revenus publicitaires y arriver sur TikTok, mais voilà.
Souviens-toi qu'il y a à peine 10 ans, c'était encore des chiens sur des skateboards YouTube. Hein, je suis. Cédric,
je sais.
Sois d'accord avec moi, Cédric. Allions-nous contre Jérôme. En même temps, je dis sois d'accord avec moi. Je ne sais même pas si j'y crois à TikTok en YouTube. Mm-hmm. Mais pour le principe, faisons-nous les avocats du diable.
Bah non, mais pour moi, TikTok, c'est. Enfin, YouTube, en gros, c'est devenu la vidéo, j'allais dire, de boomer, mais c'est presque ça, en fait.
Ah ouais, ça serait regardé.
Ça sera, c'est exactement, et je le vois, hein, auprès des jeunes, quand vous leur demandez s'ils sont plus TikTok ou YouTube, ils vous répondent tous TikTok. Enfin, même moi, je le vois auprès des étudiants qui, pourtant, voilà, les nouveaux que je recrute ont 17 ans, donc, ou 18 ans, bah, même eux, en fait, ils sont tout le temps sur TikTok, en fait. Pourquoi ? Parce que bah, les vidéos sont courtes, ça ne nécessite pas un grand temps d'attention, on rigole, on passe au truc suivant, etc. En gros, ce qui faisait la force de YouTube il y a 2, 3, 4 ans, bah, c'est ce que fait TikTok en fait. TikTok a pris ce que YouTube a finalement commencé à laisser tomber en voulant produire des contenus. Rappelez-vous, il y avait eu ce virage de YouTube veut produire des contenus, YouTube veut mettre en avant des contenus intelligents. Sauf qu'en fait, les contenus dits pas intelligents, c'est-à-dire que les mecs qui dansent, les machins, les trucs, les prouesses artistiques et tout, où est-ce qu'ils vont ? En fait, ils vont sur TikTok, tout simplement. TikTok, c'est le côté cool et jeune que YouTube n'a plus, en fait.
Oui, mais moi, ce que je dis, je suis entièrement d'accord avec toi, mais ce qui pend au nez de TikTok, c'est le syndrome Vine. C'est-à-dire que, quelque part, attirer les jeunes, c'est relativement facile. Attirer l'argent, les annonceurs, pour avoir un business model... C'est plus compliqué. Ouais. Et TikTok, aujourd'hui, a beaucoup de mal à attirer les annonceurs. Beaucoup, beaucoup de mal.
Ouais, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant longtemps, ils ont été taxés de réseaux pédophiles parce qu'il n'y a que des jeunes qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas machin. Sauf qu'il y a de plus en plus d'influenceurs, justement, qui débarquent sur la plateforme. Il y a de plus en plus d'annonceurs qui débarquent sur la plateforme. Enfin... Je suis plutôt de l'avis de Patrick. Je sens plutôt en TikTok un remplaçant de YouTube, mais pour moi, il y a un vrai gros potentiel parce qu'ils attirent le jeune public. Et...
Je crois que la clé, en fait, c'est qu'ils grandissent avec le public qu'ils ont capté.
C'est ça. Exactement. En fait, ils font Squeezie, quoi.
Et ils font Squeezie, exactement. Mais TikTok, c'est Squeezie.
Je trouve qu'ils font ça.
Et du coup, ils peuvent tout à fait, ils sont déjà sur la place depuis un ou deux ans. On peut voir à 3-4 ans quand les collégiens lycéens seront à l'université et puis peut-être au-delà, ils s'intéresseront peut-être à d'autres choses. Donc peut-être. Et c'est marrant parce qu'en même temps, YouTube est en train de pousser les shorts à fond. Les shorts, leur équivalent de TikTok. Et je suis pas sûr que ça prenne autant.
Dans le chat, il y a Dragomo qui dit « Vous serez surpris des chiffres que font les très très jeunes YouTubeurs, encore des millions de vues et des centaines de milliers d'abonnés. » Non, mais ça, on ne juge pas ça du tout. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a une audience monstrueuse sur TikTok, pas une audience sur un influenceur en particulier. Il y a une audience monstrueuse sur TikTok.
Ouais,
et la production de contenu est tellement facile sur TikTok.
Mais là encore, je reprends l'exemple de Vine. Vine a été une mode incroyable.
Il y avait pas,
et a lancé... Attends, mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas rémunéré les... En fait, TikTok peut réussir s'il construit un business model qui permet de rémunérer les créateurs de contenu. Il y a un truc, il ne faut pas se leurrer. Les créateurs de contenu ne vont pas aller là où ils ont le plus de vues. Ils vont aller là où il y a le plus de fric. Et c'est tout.
Je crois que le parallèle avec Vine est cohérent parce qu'effectivement, il y avait des créateurs qui avaient des communautés absolument énormes. Mais en même temps, l'ampleur de TikTok est plus grande.
C'est pas l'audience globale de la plateforme. Ouais. Enfin,
et il rentre beaucoup d'argent aujourd'hui. Mais bon, à voir. On verra. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en passant à 3 minutes de vidéo, 3 minutes maximum, ils vont créer une opportunité pour des vidéos d'un type différent parce qu'elles seront plus longues.
Exactement.
Et c'est ça qui va être intéressant à suivre.
Moi, pour donner un exemple, jusqu'ici, nous, on ne savait pas trop ce qu'on pouvait faire sur TikTok. À 3 minutes, ça me fait réfléchir, effectivement.
Ouais, ouais. Ah, tu vois,
c'est ça. Et...
Ouais. Ouais, bien sûr. Mais ça veut dire quoi que les... Alors, je ne suis pas un boomer, mais presque. Qu'on arrive sur la plateforme. Et là, oui, il y a une chance pour TikTok.
Et, ouais. Et Jérôme, pour info, sur Twitch, tu peux déjà uploader des vidéos comme sur YouTube, hein, dans le studio vidéo, si tu veux envoyer un épisode et le publier en avant-première. Tu peux, je crois,
mais non, mais il n'y a pas tout le système de mise en avant. Non, non, mais je sais, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, Twitch officiellement ne veut pas marcher sur les plates-bandes de YouTube. Mais demain, le remplaçant de
techniquement, ils auraient les épaules. Go, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ByteDance non plus, qui a quand même des ressources qui sont assez imposantes, même si on est d'accord, ce n'est pas Google ou Amazon. Instagram est en train de créer un système qui permettra aux gens de soutenir les créateurs. Décidément, c'est un sujet qu'on retrouve un petit peu partout. On en a beaucoup parlé sur Twitter ces derniers temps. Et d'une manière générale, il y a eu un discours intéressant autour d'Instagram qui disait, et c'est un sujet qu'on vient d'évoquer, qui disait que leurs compétiteurs, c'était plutôt TikTok et YouTube qu'ils mettent un peu dans le même panier. Et ils disent Instagram n'est plus une application de partage de photos. Il ne faut plus penser à Instagram comme les photos carrées qu'on va partager et qu'on va... Enfin, simplement. Et ils pensent vraiment à la vidéo, le soutien des créateurs, etc. J'ai trouvé ça intéressant... Surtout dans le contexte de Facebook qui lance Bulletin, donc une newsletter quelques semaines après Twitter qui a lancé un service de newsletter. Pardon, ce n'est pas juste une newsletter, mais un service de newsletter. Ils ont également étendu la disponibilité du service de cloud gaming. C'est principalement des applications et des jeux mobiles, mais ils ont un service de cloud gaming aux US. Donc, ils ont étendu la disponibilité de ça sur tout le pays quasiment. Et au-delà de ça, j'ai lu un article intéressant de Siva Vaidyanathan sur Wired qui dit « On se trompe quand on parle de la question de la régulation des réseaux sociaux et des géants du web. Ce qu'il faut, ce n'est pas les découper ou les limiter ou ce genre de choses. Ce qu'il faut, c'est rendre les données interopérables de manière obligatoire. » C'est ouvrir les barrières des données et des graphes sociaux pour que la vraie compétition puisse se relancer. Et bon, c'est un sujet qui est un petit peu différent, peut-être, on peut parler des autres avant, mais j'ai trouvé cette idée intéressante, l'idée de dire, ça ne sert à rien de séparer Facebook, WhatsApp et Instagram ou ce genre de choses. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait, par l'ouverture des données, le fait simplement qu'on puisse accéder à un autre réseau social, puisse accéder aux données de Facebook, par exemple, pour les réutiliser de manière différente, peut-être. Aux données de Facebook, on parle des mises à jour qui sont postées sur Facebook ou Twitter ou ce que c'est, pour les rendre visibles d'une manière différente et créer de la concurrence de cette manière. Mais au-delà de ça, donc, j'ai l'impression que Facebook est de plus en plus une grosse machine à photocopier. Mais ce qui m'intéresse le plus là-dedans, ça reste l'idée que Instagram a des ambitions qui dépassent de très loin la photo. Je ne sais pas déterminer si c'est une bonne ou une mauvaise idée, ça, en fait. Je reste circonspect, on va dire. Et vous aussi.
Circonspect.
Est-ce que Instagram peut réussir à sortir, là encore, on est dans la même situation, enfin la même question que TikTok, est-ce qu'ils peuvent sortir du carcan, entre guillemets, d'Instagram, même si ce carcan, c'est plus d'un milliard d'utilisateurs ?
Ouais, c'est vrai que Instagram comme truc de photo, moi ça fait longtemps que je le considère plus comme un truc de photo. Je pense que Instagram est le prochain sur la liste de la ringardisation.
Ouais.
YouTube, je suis d'accord, est ringard aujourd'hui. Enfin, ringard. C'est encore des endroits où il y a beaucoup de monde, mais on va dire les gens de plus en plus âgés. Alors, est-ce que quand les personnes âgées arrivent sur une plateforme, elle devient obligatoirement ringard ? Pour les jeunes, oui. Après, je le redis parce que je m'aperçois vraiment de ça. Facebook est considéré ringard par les jeunes. Facebook se porte extrêmement bien parce que justement, il a l'argent des boomers. Enfin, il y a l'argent publicitaire pour les boomers, quoi. Même si ça peut choquer certains qui nous écoutent, un truc qui devient ringard devient extrêmement rentable d'un point de vue publicitaire.
Ouais. C'est un peu le passage obligé, sans, peut-être. C'est,
sans argent, voilà. Donc Instagram, à mon avis, là devient intéressant pour les publicitaires de plus en plus parce que c'est plus que c'est pas que un truc de jeunes hypés qui savent se servir des fonctionnalités, quoi.
Ça fait un moment. Mais Instagram pousse les vidéos depuis longtemps. Alors, je sais que tu fais de la vidéo avec Nowtech sur Instagram, mais c'est très limité quand même. Tu n'utilises pas IGTV, par exemple, si je ne m'abuse.
Non, on n'utilise pas IGTV. C'est plus qu'on arrive à un moment des réseaux sociaux où si tu fais les flits, les shorts, les trucs, machin, si tu n'as pas un CM à plein temps, c'est impossible à suivre. Ou alors, tu ne fais plus de vidéos sur ta chaîne principale, quoi, ou plus de live. Non, mais en plus, honnêtement, l'équation de temps, c'est ça. Hein.
Oui, ouais, bien sûr, j'en sais quelque chose.
Donc, nous, on essaye de faire quelque chose avec les vidéos courtes et tout. C'est pas facile. Il faut... Puis, je pense que c'est un réflexe aussi. Mais je sais que j'exploite mal. Hein. Par exemple, Instagram, nous, on l'exploite très mal. Hein. On pourrait l'exploiter mieux que ça, quoi.
Non, mais ça me m'interpelle parce que tu disais que tu considérais l'idée de te lancer sur TikTok alors qu'il y a déjà Instagram à côté et que tu n'exploites pas ces fonctionnalités-là sur Instagram.
Après, honnêtement, voilà, on ferait probablement des contenus assez proches entre
c'est ça.
Des shorts, des stories et des... je sais pas comment ils vont les appeler. Enfin, c'est des TikTok. Après, je sais que la clé, c'est de faire un contenu par réseau social, machin, mais...
Ça, c'est bien gentil en théorie, mais... Ouais. Cédric, toi, tu le vois de quel œil Instagram aujourd'hui et peut-être...
Aujourd'hui, pour moi, Instagram, c'est devenu le Snapchat des boomers, en fait. Non, j'exagère, mais c'est presque ça.
Mais Snapchat des boomers. Mais ouais, non, mais en même temps, tu sais, non,
Jacques, le Snapchat est devenu le truc des boomers aussi.
Alors non, non, pas tant que ça. Alors en fait, moi je constate un truc, en particulier avec les étudiants avec qui je bosse là, enfin j'en ai plein hein, sur le campus, j'en ai 450, donc je vois à peu près les usages et les us et coutumes de cette jeune population que j'observe. Ils utilisent Snapchat, vous savez pourquoi ? Pour faire du Snapchat. Ils utilisent Instagram pour partager des photos et ils utilisent Twitter pour éventuellement faire un peu de veille. En fait, c'est très con, mais toutes les fonctionnalités qui sont rajoutées, les stories, les machins, ben en fait, ils préfèrent utiliser les stories de Snap parce que historiquement, elles sont là. Ils ne regardent pas du tout les réels d'Instagram, en fait. Ils regardent les reels d'Instagram, mais en fait, ils regardent les vidéos sur TikTok, en fait.
Ils vont
toujours à l'origine du réseau qui a lancé la fonctionnalité parce que ben, c'est là qu'était la communauté d'origine autour de ce truc-là. Et je note, il y en a peu qui me disent, moi, je fais tout sur Instagram. Tu vois, parce que sinon, il sait qu'il va rater ce qui se passe sur TikTok.
Ouais.
Et inversement, tu vois ce que je veux dire ?
Snapchat, ouais, moi, je l'utilise pas vraiment, Snapchat, mais les flits, c'est souvent des stories d'Instagram réimportées. Il faut avouer que les stories ont beaucoup, beaucoup de succès sur Instagram. Les Reels, c'est souvent des TikTok.
Il y a le logo TikTok.
C'est ça, exactement. Mais bon, en même temps, Instagram, ils s'en foutent. Il y a des trucs, si c'est vu, ils s'en foutent que ça... Enfin, ils s'en foutent, oui et non, mais ça
non,
leur fait de la vue.
Non, ils s'en foutent pas parce qu'à un moment, ils avaient expliqué qu'il y avait un algo qui si il y avait le
logo TikTok, tu es moins...
TikTok, ta vidéo est moins vue.
Ouais.
Donc, c'est pour ça d'ailleurs que souvent, elles sont recadrées, un peu recadrées à l'arrache, masquées en partie le logo TikTok. Ouais. En disant, ben, l'algo ne le verra pas. Mais je pense que le move d'avoir les stories exclusives pour les gens qui payent, ben, je veux dire, c'est du niveau de Twitter qui rend les tweets payants pour les super followers et ce genre de trucs, tu vois.
Je sais pas, il y a des gens qui vivent des créateurs, donc qui créent du contenu sur Instagram. Tu sais, c'est leur réseau social et c'est là qu'ils font leur contenu.
Il y en a qui le font sur OnlyFans aussi, tu vois.
Justement,
ils appliquent en fait ce modèle-là. Ils se disent ce modèle fonctionne sur d'autres trucs.
Moi, je trouve justement OnlyFans est hyper intéressant. Je ne dis pas pour aller voir ce qu'il y a dessus, mais en termes de modèle économique. Moi, il y a deux choses dans ce que dit Cédric.
Pour ceux qui ne savent pas, OnlyFans, c'est un site qui est un petit peu l'équivalent de Patreon, un petit peu exclusivement pour du contenu porno. Et il y a beaucoup de gens qui ont des communautés et qui se créent des communautés sur d'autres réseaux sociaux ou ce genre de choses et qui diffusent leur contenu pornographique sur OnlyFans. Et il a, pendant la pandémie, connu une croissance, ce site, assez importante. Et donc voilà, juste pour préciser.
Ouais, mais ce qui est intéressant dans OnlyFans, c'est que tu construis en tant qu'influenceur un noyau de communauté prêt à payer pour un contenu exclusif. Et ça, c'est un business model alternatif à j'ai des sponsors et je me fais payer des trucs sponsorisés qui, dans certains cas, alors pour l'instant très porno, mais je pense qu'on est à l'aube de voir aussi certains créateurs avec des noyaux de communauté suffisamment forts et engagés se créer de quoi faire un ou deux salaires avec ce type de modèle. Ce que je trouve intéressant dans ce que disait Cédric avant, parce que je sais la question m'obsède, mais je trouve ça hyper intéressant, les jeunes font les modes des réseaux sociaux. Mais est-ce qu'ils en font le succès? Et qu'est-ce que le succès d'un réseau social, en fait?
Ça, c'est une question vaste et intéressante, ouais.
Mais je trouve que... On a un peu de recul. Regarde, au début, Facebook était ultra cool à notre époque.
Mais pas rentable.
Google Plus, non mais ok, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est devenu, entre guillemets, notre réseau social de vieux, et eux ne sont pas du tout dessus. Ce que je veux dire, c'est que moi, dans 10 ans... Non mais... Moi non plus, mais ce que je veux dire, c'est que oui, tu t'es encore sur Twitter, mais si tu regardes sur Twitter, finalement...
Twitter, c'est un réseau particulier. Hein. C'est un réseau qui est beaucoup plus petit que les autres, mais qui est très important pour communiquer. Tout le monde utilise Twitter, même s'il a que 350 millions de...
Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, je pense que ces générations vont suivre le réseau sur lequel elles étaient au départ. Une fois que tu es habitué, que tu as un usage... Enfin, moi, aujourd'hui, les gamins, si je pouvais me mettre sur Snap pour communiquer avec eux, ils seraient super contents. Les vitrées qu'ils utilisent Teams, tu vois.
Ouais. Donc, je comprends ce que dit Jérôme en même temps. Comment est-ce qu'on définit le succès d'un réseau social? Est-ce que c'est le succès de la société qui a créé ce réseau social et donc le succès financier? Et si c'est ça, et c'est complètement légitime de dire ça, bah oui, c'est les boomers qui ont l'argent, quoi. Les boomers et les générations d'à côté, donc...
Ma théorie, c'est, regarde, Facebook n'a jamais été aussi ringard auprès des jeunes et marche du feu de Dieu d'un point de vue financier. YouTube se ringardise, comme tu dis, devient le truc des boomers, mais YouTube, depuis 2015, est enfin devenu bénéficiaire et marche du feu de Dieu. Donc, en fait, à quoi on mesure le succès d'un réseau social? La presse va souvent dire le succès d'un réseau social, c'est parce qu'il est à la mode. Mais d'un point de vue financier, ce n'est pas forcément les réseaux sociaux qui sont à la mode qui marchent le mieux, en fait, d'un point de vue financier.
Bac Philosophie 2021, comment mesure-t-on le succès d'un réseau social? Vous avez 4 heures. Écoutez, vous savez comment on mesure le succès de Patrick, c'est est-ce qu'il est considéré comme sympathique par ses auditeurs? Et si... Patrick est considéré comme sympathique par ses auditeurs, souvent, ses auditeurs se disent « Mais il est sympathique, donc je vais lui filer un petit coup de main. » Et il y a...
On revient toujours au business model. Hein.
C'est ça. Succès de Patrick, c'est les boomers ou...
Tu sais quoi? Le podcast, c'est tellement difficile d'accès, contrairement à un TikTok où tu lances ton app et puis c'est terminé, que les gens qui écoutent des podcasts, c'est des gens qui veulent vraiment écouter les podcasts. C'est vous, là, qui nous écoutez, faut être motivé. Et donc, comme vous êtes motivé, vous êtes un petit peu plus engagé peut-être que quelqu'un qui scrolle sur les reels d'Instagram. Et peut-être que vous vous dites, bah oui, Patrick, sympathique, il est cool, et donc je vais lui filer un coup de main sur Patreon. On y arrive. Patreon.com/RDVTech. Il y a une communauté absolument formidable sur Patreon et sur le Discord. Et des gens, en fait, qui sont des gens bien, tout simplement, qui consomment du contenu et qui le trouvent cool et qui se disent « bah ouais, ça vaut 1 euro, ça vaut 2 euros, ça vaut 3 euros, ce que c'est ». Et en plus, Patrick est sympa. Donc, si vous écoutez l'émission depuis un moment, je vous encourage à rejoindre la communauté des gens cool qui soutiennent le Rendez-vous Tech sur patreon.com/rdvtech. Et vous avez le lien dans les notes de l'émission, évidemment, ou alors sur notepatrick.com directement. Mais il est dans les notes de l'émission, donc c'est plus facile à faire. Donc, si vous rentrez chez vous aujourd'hui, je vais vous donner un petit truc. Vous rentrez chez vous aujourd'hui, vous passez la porte, vous enlevez vos chaussures et puis vous mettez les clés dans le bol. Qu'est-ce qui se passe quand on met les clés dans un bol? Dites-le avec moi. 3, 2, 1, ça fait cling.
Cling.
Cling, voilà, okay. Exactement. Et quand ça fait cling, vous vous dites Patrick. Cling, Patrick. C'est très facile. Et à ce moment-là, vous allez sur votre ordinateur parce que vous êtes plus proche d'un boomer que d'autre chose. Et vous avez des richesses incroyables par rapport à un jeune étudiant. Et donc, vous dites 1 euro, ça vaut le coup. Patreon.com/rdvtech. En plus, vous avez des bonus, tout ça. Je vous prépare un édito pour la semaine prochaine avec des histoires de DMCA qui me sont arrivées et de navigation de ces problématiques. Une aventure incroyable qui va de Twitch aux États-Unis avec des avocats, avec les GAFAM, des trucs... Ça sera un édito qui sera publié la semaine prochaine. Palpitant, patreon.com/rdvtech, principalement pour me soutenir et me filer un coup de main. Plus que filer un coup de main, si vous considérez que l'émission est cool, je veux bien, comme à l'époque où on payait un magazine, là encore les boomers s'en souviennent, je veux bien que vous donniez la valeur que vous considérez que cette émission vaut. Donc patreon.com/rdvtech. Merci à vous
et
tous.
Et si on a une serrure connectée, on donne rien du tout alors.
Une serrure connectée?
Bah, ça fait pas cling.
Ah, d'accord. Ok, alors.
On n'a pas de cling.
Ouais.
Ben écoutez, oui, comment on fait, Patrick?
Si vous avez une serrure connectée, c'est le moment où vous lancez l'application pour ouvrir la porte, que ça fait bzzz, comme disait Cédric, et c'est bzzz, Patrick. Ouais, mais Buzz Patrick, ça peut faire penser à d'autres choses qui sont un peu...
Ouais, c'est ça. Ouais. On revient à OnlyFans, hein.
On y repensera. Je vais y réfléchir. Et puis, on verra de quoi il en retourne.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Très bien. On va continuer avec les sujets intéressants. Vous savez, on vit vraiment dans la science-fiction à un niveau que les gens ne réalisent pas. Au-delà même du fait qu'on a des machines dans les mains qui nous permettent d'avoir accès à toute la connaissance du monde immédiatement, la connaissance universelle qui nous permettent de nous téléporter quasiment en étant présent chez quelqu'un d'autre avec l'audio, la vidéo, eh ben, ça va encore plus loin. Je plaisante pas, hein, parfois je dis ce genre de choses et puis j'arrive à une connerie après. Vraiment, on vit dans un monde de science-fiction et les gens ne s'en rendent pas compte. Apple et Intel sont en train de travailler avec TSMC pour adapter les designs de leur prochaine puce en gravure en 3 nanomètres. 3 nanomètres, c'est l'équivalent de quoi ? 10 à 15 atomes de silicone. Les circuits imprimés, enfin les circuits des puces de 3 nanomètres qui seront a priori mises en vente, on imagine fin 2022, elles font 15 atomes de silicone. Et on est en train de concevoir des puces où les circuits font 15 atomes de silicone d'épaisseur. On vit dans un monde de science-fiction, je trouve ça invraisemblable. Et après, les gens disent « Ah, mon téléphone, il marche pas, c'est n'importe quoi, les gens, ils savent pas quoi, comment faire, Apple, c'est des cons, Android, c'est n'importe quoi, machin. » Ok. Mais 3 nanomètres. on peut pas vraiment aller beaucoup plus loin parce qu'après on va avoir des circuits qui font un atome de
ouais, mais après tu fais 3 nanomètres sur 3 nanomètres, tu fais du multicouche.
C'est ça. Non, après t'as des tu peux avoir des nanotubes de carbone, tu vois, ce genre de choses. Mais bref, les puces de 3 nanomètres arrivent, gravées à 3 nanomètres arrivent dans un an et demi, et je trouve ça complètement fou. Un autre truc qui est complètement fou, c'est que Shopify est en train de passer sa commission pour le premier million de revenus. Shopify, c'est un moteur de commerce, des outils de commerce en ligne qui sont disponibles pour n'importe qui. Pour le premier million de revenus, ils vont prendre 0% de commission sur les activités des utilisateurs qui utilisent leurs services. J'ai fait un petit édito, je me suis un petit peu, là pour le coup, on s'est un petit peu marré, mais j'ai comparé en fait le marxisme à Internet aujourd'hui. L'un des préceptes du marxisme étant la possession des moyens de production par les travailleurs, bah aujourd'hui, avec Internet, avec la désintermédiation, les travailleurs ont la main sur une énorme partie des moyens de production. Alors, je sais que cette comparaison a ses limites et on en a beaucoup discuté sur le Discord des Patriotes, ça a été très drôle.
Ça m'étonnerait que les mecs de Shopify soient vraiment des marxistes, mais...
Mais non, mais tu sais, alors j'ai appris qu'en fait, il y a un courant des libertariens aux États-Unis, qui sont vraiment l'extrême droite, qui considèrent que le marxisme, en fait, ne pouvait pas fonctionner à cause des intermédiaires et qu'aujourd'hui, en fait, le communisme pourrait fonctionner parce que justement, il y a plus d'intermédiaires. Bref, c'est pas le sujet ici. Mais entre, tu vois, ça fait un petit peu clic avec cette histoire de Shopify à 0% pour 1 million. Il y a les outils de développement de jeux vidéo qui ne prennent aucune commission pour une énorme partie de tes revenus et qui vont prendre ensuite 5-15%. On peut maîtriser sa communication, on peut maîtriser sa production, on peut soi-même lancer une chaîne YouTube, un podcast sans aucun investissement financier quasiment. Alors évidemment, après, on est à la merci des algorithmes, etc. C'est d'autres problèmes. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui, là encore, amène une liberté aux indépendants, aux gens qui veulent travailler tout seuls, qui était inimaginable avant et qui est une des merveilles d'Internet. Alors évidemment, on a beaucoup de problèmes, on en parle beaucoup dans l'émission, mais cet aspect aussi, on ne le célèbre pas assez, je trouve. Le fait que n'importe qui puisse devenir musicien, puisse devenir vidéaste, puisse devenir développeur de jeux vidéo, c'est des corps de métier qui sont beaucoup dans les services, mais il n'empêche, c'est quelque chose dont on ne parle, qu'on ne voit jamais, et qui me... Mais c'est ça, Cédric, tu rigoles, mais...
Patrick, président
mais c'est vrai, qu'on prend le pouvoir. Alors évidemment, on dit dans la chatroom, oui, mais tu ne maîtrises pas entièrement tout ce qui se passe, il y a les algorithmes, les machins. Évidemment, je ne dis pas le contraire. Mais par rapport à une époque où tu devais aller, je ne sais pas, à l'usine pour pouvoir manger, où tu devais... forcément t'employer dans une société et que tu n'avais pas d'autres moyens ou alors un truc
non,
que
non, tu peux devenir précaire tout seul, hein, y a pas de souci.
Non, mais tu vois ce que je veux dire, évidemment qu'il y a encore des gens qui n'arrivent pas à en manger, mais tu peux tenter, tu as besoin de personne, tu peux faire ton truc et on voit, et il y a des gens qui vont dire mais non, mais il y a des gens...
Je suis d'accord avec toi, on n'a jamais été, en tout cas en Occident riche, on n'a jamais été aussi libre d'entreprendre. Et quelque part, la distance entre une idée de business et faire du business s'est considérablement réduite. Mmh. Sauf l'administration française, mais ça, c'est un autre problème.
Mais
globalement, aujourd'hui, tu peux presque en une semaine partir d'une idée de business et avoir ton business. Mmh. Alors qu'avant, il y avait quand même beaucoup plus. Donc, ça, c'est intéressant. Et je trouve, pour deux raisons, j'en ajouterai une à la tienne. C'est que le droit à l'erreur est de plus en plus admis, et ce qui te permet de faire beaucoup de pivots pour trouver ton job, en fait, tu vois. On passe d'un modèle où tes études et ta carrière étaient une espèce de grande pyramide solide, il fallait que tout soit consolidé sur les côtés, à des possibilités de tâtonnement. Alors, je suis d'accord avec Cédric, attention quand même à la précarité de ces situations-là, mais on a plus de possibilités de tâtonner dans la vie, et ce qui est beaucoup plus adapté au marché qu'on a aujourd'hui.
Sur la question de la précarité, attention, je ne dis pas tout le monde peut devenir créateur de contenu facilement. Ce que je dis, c'est que on a les outils qui sont à la disposition de tout le monde. Après, évidemment, les places sont chères et il faut se battre et avoir beaucoup de chance, évidemment. Mais il y a des centaines de milliers de producteurs de contenu indépendants qui ont des communautés relativement réduites de quelques, je sais pas, dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes et qui peuvent faire des choses là où avant, on était à la merci de plus grands acteurs qui avaient la possession des moyens de travail, moyen des de means production. Of production, ah, de, ouais, du capital et du terrain. En fait, dans dans la théorie marxiste, il y a trois choses qui comptent. Les moyens de production, le capital et les terrains. Tu vois, si tu as ça, c'est toi qui contrôles tout. Aujourd'hui, le terrain est virtuel, les moyens de production sont gratuits et le capital, on n'en a plus autant besoin. Bien sûr, il en faut, mais plus autant besoin. Et pour certaines choses, hein, encore une fois, on parle des choses qui peuvent être faites sur Internet, mais il y en a de plus en plus. Je ne sais pas, j'ai trouvé la réflexion intéressante. Je suis sûr que beaucoup de gens ne seront pas d'accord. Et évidemment, elle n'est pas parfaite. Et évidemment, il y a plein de gens qui sont précaires dans ces domaines aussi. Mais il faut comparer les choses qui sont comparables. Si on parle d'une époque où il y avait les 3-8 à l'usine, où il fallait travailler 50 ans dans la même société et on n'avait pas le choix, les choses sont très différentes.
Ouais, après...
Cédric, vas-y.
Ouais, je ne suis pas encore exprimé sur le sujet, mais moi, je rejoins Dr. Valal sur un truc, hein. C'est que Shopify, il est vachement utilisé pour le dropshipping. Et le dropshipping, on sait à quel point ça peut être une catastrophe, même écologique.
Tu peux expliquer le dropshipping Je peux le faire, mais...
Bon, le principe du dropshipping, c'est qu'en gros, vous possédez rien, vous le vendez, vous vous sourcez en Chine, vous faites stocker ça dans des entrepôts sans... Et vous savez, en fait, d'ailleurs, Amazon participe pas mal à ça. On entend souvent parler des produits neufs qui sont jetés à la poubelle, qui sont souvent liés d'ailleurs au dropshipping, c'est-à-dire que vous commandez des câbles d'iPhone en quantité astronomique que vous vendez pas cher sur le site. Simplement, vous payez à l'emplacement que vous réservez dans l'entrepôt. Et donc, Amazon vous demande, est-ce que vous voulez payer pour le stockage ou est-ce que vous voulez le détruire? Et c'est souvent ces produits-là qui, d'ailleurs, sont détruits alors qu'ils n'ont même pas été déballés parce que vous n'avez pas réussi à vendre vos 50 000 brosses à dents électriques incroyables. Le dropshipping, en gros, c'est... Vous achetez... Vous connaissez peut-être, d'ailleurs, l'un des câbles les plus connus en France, c'est cette petite boule qui permet de se passer de lessive pour nettoyer son linge, là. Qui, en gros, vaut 30 centimes sur AliExpress. Et que des sites de dropshipping revendent une trentaine d'euros, quoi. Donc, ça permet de faire une plutôt belle marge.
Donc, juste pour... Je ne sais pas si les gens ont bien compris, mais le dropshipping, tu commandes un truc à un site qui ne possède rien, et quand tu l'as commandé, il le commande sur l'autre site et l'envoie chez toi directement. Donc, c'est juste l'aspect marketing de la vente. Ils vont juste essayer de te le faire connaître et de le faire acheter chez eux pour une marge, comme tu le dis, assez confortable.
Exactement. Et le problème en fait de Shopify, c'est que c'est quand même c'est la plateforme numéro un qui est utilisée pour ce genre de pratique, et rendre gratuit jusqu'à $1 million de chiffre d'affaires. Je trouve que ça va encore, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que on peut lancer un business tout de suite là de vente de boules qui permet de laver son linge sans lessive. Avec 0 € en poche, quoi, en fait.
Ouais. Mais tu parles
et sur lequel on prend aucune marge, donc bon.
Et l'autre truc, juste pour abonder aussi dans le sens des, ça peut pas être. En fait, il y a beaucoup de marketing à dire surtout dans la store war qu'on est en train de vivre en ce moment. De dire je prends pas de commission, c'est plus un effet de manche marketing qu'autre chose, parce que Shopify actuellement, il est en conquête de parts de marché. C'est la même stratégie, chaque fois que quelqu'un fait un truc gratuit, c'est parce que je grappille les parts de marché. Ah tiens, je vais héberger tes photos gratuitement, ah tiens, je vais te faire ça gratuitement. Non, tu démolis la compétition qui essaie de faire payer le même service, et puis après, tu mets les prix que tu veux. Donc Shopify aujourd'hui drop la commission... Est-ce qu'ils la dropperont demain? Non, mais je voudrais pas froisser le marxiste qui est en toi. Il y a une certaine naïveté. Je suis pas sûr que demain, Shopify garde ses commissions à 0%.
Mais je suis pas d'accord. C'est une question d'échelle. Et il est largement plus intéressant pour eux d'avoir 0% sur le premier million et d'attirer les business qui ensuite feront 2, 3, 4, 5 millions. Et c'est une tendance qui est hyper importante en raison... de la concurrence saine qui s'est établie dans certains domaines et peut-être un petit peu moins saine dans d'autres, mais il y a énormément de services de ce type qui sont gratuits à l'utilisation à la base. Mais on pense, comme je disais, je vois pas ça comme quelque... Parce que C'est des choses qui...
Non, non, mais c'est pas... Non, mais quand ils sont gratuits, c'est juste pour conquérir des parts de marché.
Ou ne pas les perdre. Mais oui, mais le fait reste que c'est le jeu de la concurrence. C'est le capitalisme dans sa forme la plus réussie, en fait. Tu vois, j'allie marxisme et capitalisme, on y est arrivé. Mais wow, c'est le capitalisme dans sa forme la plus réussie. C'est-à-dire que la concurrence impose des conditions aux sociétés qui sont bénéfiques pour les consommateurs et pour les utilisateurs de ces services. Et en l'occurrence, dans le monde du jeu vidéo, qui est un domaine que je connais, les outils de développement aujourd'hui, il y en a, allez, on va dire 3-4 différents qui sont majoritaires, et ils sont tous gratuits au début de l'utilisation. Parce qu'il y en a un qui a commencé, les autres sont obligés de s'aligner, etc. Et ils font beaucoup d'argent. Hein. Ils sont en très très bonne position, on ne se plaint pas pour eux. Les développeurs ont de plus que jamais accès à ces outils pour créer des jeux vidéo d'une diversité et d'un niveau artistique incroyable. On a une offre qui est pléthorique dans ce domaine. Et d'une manière générale, c'est un écosystème qui est... Alors, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais le développement de jeux vidéo, c'est compliqué, il y a du crunch, machin. » C'est complètement autre chose. Et oui, on peut toujours parler de problèmes qui se font jour dans des domaines connexes de ceux dont on parle ici. Mais le fait qu'on puisse avoir un moteur de commerce complètement gratuit pour se lancer un truc comme Shopify, je suis sûr qu'il y a des alternatives, j'ai du mal à penser que c'est négatif. Et je ne suis pas du tout convaincu que dans 5 ans, Shopify va dire « Ah ah, maintenant vous faites du commerce avec nous, tous ceux qui vont commencer et qui font 0 euro de commerce, ils vont devoir payer 50% de commission !» Donc, bon, je me suis assez énervé pour... Ouais. Non, t'es pas d'accord, Cédric. Allez, je te laisse le dernier mot. Et puis...
Non, mais je suis d'accord avec toi, Patrick. Tu as tout à fait raison.
Merci. Cédric, Jérôme
en fait, moi, je suis d'accord avec toi jusqu'à ta conclusion, en fait.
C'est-à-dire, c'était quoi la conclusion? J'ai déjà oublié.
En fait, t'as juste expliqué, et ça, on est complètement d'accord, qu'il n'y a pas de meilleur business model que le gratuit, parce que ça te permet d'avoir une
base. Ah, tu penses que Shopify va remonter la commission après?
Attends. Pas forcément la commission, ils sont pas cons, ils vont pas réaugmenter forcément ce qu'ils ont baissé, mais ils vont... Regarde, je te donne d'autres exemples. Amazon a tué une grosse partie de la concurrence en pratiquant des prix bas. Regarde aujourd'hui les prix Amazon, est-ce que c'est vraiment les plus bas? Plus du tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est normal dans la vie d'une entreprise, le premier truc à faire, c'est perdre de l'argent pour conquérir des parts de marché. Puis une fois que tu as les parts de marché et que tu as asphyxié ta concurrence, et là, c'est ce que veut faire Shopify, tu imposes les conditions du marché.
Et c'est
tout en essayant d'esquiver, les lois antitrust. C'est le jeu du capitalisme moderne. Hein.
Exactement. Et c'est pour ça que je parlais de résultat idéal du capitalisme. Quand on a une concurrence saine dans le domaine du jeu vidéo, du développement de jeux vidéo, il y a plusieurs moteurs de développement, plusieurs outils de développement. Et il y a une concurrence saine. Je ne connais pas assez bien le marché du commerce en ligne pour vous dire si Shopify a des concurrents sérieux. J'ai l'impression que oui, mais je ne saurais pas vous le dire avec certitude. Mais on parle... Enfin, moi, je dis que c'est un truc sain. Quand il y a une concurrence, qui est une composante absolument essentielle d'un capitalisme qui réussit à arriver à son but, de profiter aux consommateurs en faisant jouer la concurrence. Maintenant, s'il n'y a plus de concurrence, évidemment que ça ne marche pas. Si Shopify étouffe complètement la concurrence avec cette action, je suis complètement d'accord que c'est une perversion du truc et qu'il faut que les États interviennent pour réintroduire la concurrence, ce que souvent ils n'arrivent pas à faire et qui est un problème, on est d'accord.
Bah, de toute façon, là, on est dans une émission hautement économique. C'est le paradoxe du capitalisme. On pousse les sociétés à être en compétition les unes contre les autres et à se bouffer le nez. Et puis, une fois qu'il y en a une qui a mangé tout le monde, on lui dit « t'es trop grosse, on te démantèle ». Quelque part, il y a un paradoxe.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais... C'est pour ça qu'il faut, et là, je vais réunir les deux, tu vois, marxisme, capitalisme, fusion, patrixme. C'est pour ça qu'il faut, enfin, c'est même pas ça, c'est une évidence. C'est pour ça qu'il faut des gouvernements qui ont le pouvoir de réguler le marché, qu'il faut un marché suffisamment libre pour qu'il y ait une concurrence saine par des acteurs privés, et en même temps suffisamment régulé pour que cette concurrence ne se transforme pas en monopole qui, au final, nuit aux consommateurs. Donc, évidemment qu'il faut, effectivement, et c'est tout le problème qui se pose avec les GAFAM aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment faire pour remettre, et on ne sait même pas s'il n'y a pas de concurrence dans ces marchés, mais on voudrait réintroduire, a priori, si on en est en manque, de la concurrence pour que ça fonctionne de manière plus saine. Et aujourd'hui, c'est un gros problème.
Bref. Et qui essaye d'inventer le capitalisme planifié.
Écoutez, je vais vous faire un plan de 5 ans de Patrixme et ça va super bien fonctionner.
Le Patrixme, c'est très bon le Patrixme.
Le Mapitalisme.
J'adhère juste pour le nom.
Le Patrixme, très bien. Bon, on va continuer à avancer quand même. À propos de Patrixme, on a Niva qui est un nouveau moteur de recherche qui est payant. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée ? Je suis sûr que vous avez un avis. Je ne vais même pas expliquer pourquoi c'est intéressant un moteur de recherche payant.
Personne n'y va. Bon, allez.
Ok, Niva, N-E-E-V-A, mais Niva, ok, très bien, très bien.
Blague de papa.
Eh oui, de tonton bourré.
Mais est-ce que vous pensez que c'est possible ? C'est 5 dollars par mois pour accéder à ce moteur de recherche qui, du coup, évidemment, n'a aucune de vos données privées, ne se sert pas de vos informations, ne les vend à personne, etc. Et c'est lancé par d'anciens Googlers. Donc, ils connaissent
à priori leur métier. À 5 euros, tu peux rendre une niche viable. Tout dépend combien tu as besoin d'employés pour maintenir Niva. En fait, aujourd'hui, tu as peut-être un tout petit nombre de gens qui sont prêts à payer pour un moteur de recherche complètement indépendant, garanti, sans tracking, machin, etc. Si derrière, tu as une masse salariale qui n'est pas trop lourde pour que ça marche, pourquoi pas ? Par contre, ça ne deviendra pas mainstream, ça c'est clair.
Mais est-ce que c'est une proposition intéressante ? Est-ce que toi, tu serais prêt à payer 5 euros pour
Je pense qu'il y a aujourd'hui peut-être 0,1% des gens qui seraient prêts à payer... qui payent déjà pour leur mail. Voilà, c'est une niche de personnes qui sont... Moi, je suis prêt à payer à tout un tas de choses pour être garanti de ne pas avoir de pub, qu'on n'utilise pas mon data, et ce genre de choses. J'ai été suffisamment... la douche écossaise du faux gratuit qui nous berce depuis le début d'Internet fait qu'aujourd'hui, je suis mûr pour payer un maximum de services pour être le plus tranquille possible, quoi.
Cédric,
moi,
tu payes
Niva ? Non, je suis pas prêt à... non, je paye pas Niva. Par contre, je crois plus au modèle de Brave Search.
C'est mon moteur de recherche maintenant, Brave, tiens.
Ouais, Brave Search, c'est vraiment mon... Je préfère ce modèle de... En gros, c'est les utilisateurs qui construisent l'index au fur et à mesure, l'intelligence collective, finalement, et exploiter l'intelligence collective. Donc, en gros, je contribue... aussi améliorer l'index de Brave Search quand je clique sur un lien, etc. Et ça me permet de devenir de plus en plus indépendant des résultats de recherche de Bing ou de Google ou que sais-je. Payer, rien me garantit que j'ai... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais payer pour quelque chose... Enfin, ça va à l'encontre, je trouve, de la philosophie même de ce qu'était Internet, cette intelligence collective de partage de connaissances universelles qu'on nous a vendues dans les années 90. Fin des années 90, et je trouve que Brave Search, de manière globale, est plus dans cet esprit-là, en fait. Payer un service. Non, mais, en fait, je comprends l'idée de se dire, oh ben, il n'y a pas de pub, du coup, vous payez. Bon, à la fin, c'est le même principe. C'est un service qui est extrêmement centralisé, avec aucun contenu généré par l'utilisateur, un algo. On ne sait pas ce qui va se cacher derrière. C'est-à-dire que toi, tu vas peut-être payer. Mais peut-être que les résultats, l'indexation des résultats, bah, les entreprises vont aussi payer pour avoir, pour apparaître, même si c'est pas de la pub. Ouais.
Là, je suis d'accord avec toi. Tordre l'index, tu vois. Moi, ce genre de truc, quand je dis que je suis prêt à payer, je veux un contrat, un bonnet du forme et avoir des certifications pour pouvoir porter plainte si on me ment, tu vois. En gros, si je paye un truc. Oui, là, c'est pas du tout le même type de contrat. Tu vois.
On peut partir du principe qu'il n'utilise effectivement pas tes données privées si tu payes. Mais moi, je dirais, je serais potentiellement prêt à payer. C'est vrai qu'on disait dans la chatroom, il y a DuckDuckGo, on pourrait mentionner Quant aussi. Il y a des moteurs comme Brave encore. Moi, je serais peut-être prêt à payer si vraiment la qualité est au-dessus. Parce que j'ai utilisé Quant longtemps, j'utilise Brave maintenant. C'est pas mal comme qualité de moteur de recherche, mais je vais quand même sur Google de temps en temps parce qu'il y a des trucs que je ne trouve pas ou dont les réponses ne me satisfont pas. Si Niva fait aussi bien que Google, je pense que je pourrais potentiellement payer pour protéger mes données privées. Ça pose aussi une autre question.
Vas-y. Ouais, mais t'as la garantie que les résultats qu'ils t'affichent sont pas des résultats qui ont aussi été payés par des sociétés pour améliorer l'index, enfin leur indexation, tu vois, tu sais pas ça.
Non, mais a priori, c'est leur business model. On espère qu'ils vont. On peut pas spéculer sur le fait que
c'est
pas de la pub.
Attends. Mais c'est pas de la pub. C'est-à-dire que, est-ce que, comme pour l'utilisateur que l'on fait payer, les sociétés qui s'indexent dedans, on les fait pas payer, en fait. Tu vois, j'ai la question que
je me pose. Non, mais je sais pas. Mais je pars du principe que c'est un truc clean, tu vois. Après, peut-être que c'est pas le cas. Mais nous, on discute sur un truc qui serait ce qu'ils te vendent. Mais,
oui.
Mais bon, bref, ça pose pour moi aussi une autre question qui est intéressante. C'est encore une fois la question qui s'est posée avec le push d'Apple qui veut protéger votre vie privée. Est-ce qu'on se dirige dans un monde qui, d'une part, aura les gens qui peuvent payer pour protéger leur vie privée et qui ont accès aux trucs qui vous protègent, et d'autre part, bah, les pauvres qui ne peuvent pas payer et qui, du coup, sont obligés de monétiser leur...
Internet à deux vitesses.
C'est pour ça que je préfère. C'est pour ça que je préfère le modèle de Brave Search très clairement. Oui. Enfin,
mais en même temps, bon,
ça exclut personne en fait.
Je suis d'accord, mais il faut voir la qualité du moteur de recherche parce que c'est ça le plus important au final. Mais en même temps, je crois que la question de payer avec ses données privées est souvent mal comprise. C'est problématique si la qualité du résultat est différente. C'est-à-dire qu'avec Apple notamment, sur la question des informations, ça pose problème parce que les informations gratuites sont celles de mauvaise qualité. En gros, les fake news. Et le journalisme de qualité, bah, il devient de plus en plus payant. Et c'est une tendance qu'on peut voir s'étendre ailleurs que juste sur les sites d'information. Mais en soi... Le fait de pouvoir décider, bon, bah, mes données privées, je m'en sers. Et quand on dit les données privées, c'est juste pour avoir de la pub, hein, on est d'accord. Vous pouvez vous en servir et du coup, j'accède à votre contenu sans débourser des sous. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Moi, je suis convaincu que les deux sont valables à condition que le suivi soit bien géré, quoi, que ça n'aille pas trop loin, peut-être.
Oui.
Quoi d'autre ? Est-ce que vous saviez que... Bah justement, la question de la protection des données privées sur iOS, il semblerait que moins de 33% des utilisateurs d'iOS acceptent de se faire traquer. Moi, je suis surpris de 33%, ça me paraît beaucoup, déjà. 33% des gens disent « Oui, vous pouvez me traquer ». Ça me surprend, mais c'est les chiffres qu'on a aujourd'hui.
Ouais, parce que c'est vrai que quand ça avait démarré, le chiffre était beaucoup plus bas. Après, moi, je suis des personnes qui ont commencé à faire marche arrière. Parce que j'avoue que d'avoir des pubs qui n'ont rien à voir avec moi... parce qu'en fait, ça enlève pas les pubs, hein, on est d'accord.
Tout à fait.
Ça enlève juste le profiling qui permet d'avoir des pubs répondant plus à mon profiling créé par la collecte de mes données. J'ai commencé à avoir, franchement, des... En fait, ça m'a donné l'impression qu'Internet devenait la télé avec des pubs qui
t'intéressent pas du tout,
tout ciblées pour moi. Et notamment sur Instagram, en fait, j'avoue que j'aime bien les pubs d'Instagram parce qu'elles sont super bien ciblées. Ouais. Elles sont super bien ciblées sur Instagram. Ils ont fait très fort analysant les photos que je like et ce genre de choses. D'avoir enlevé le tracking, je me retrouvais avec vraiment des pubs de merde. Donc j'ai remis le tracking, je dois avouer.
Très intéressant, ouais. Bah au moins, grâce à cette initiative d'Apple, ils n'ont jamais dit on ne veut pas de pub. Ils ont dit on veut que vous ayez le choix. Et donc là, au moins, on voit à quoi ça sert ces histoires-là et on peut décider. Ce qui finalement n'est pas plus mal. Ceci dit, dans le marché de la pub, visiblement, c'est en train de se rééquilibrer avec les utilisateurs Apple moins nombreux. Et donc, le prix par utilisateur Apple est en train de baisser dans la pub. Enfin, ils sont moins nombreux, il y a moins de clients possibles. Donc, bref, parce que Apple a poussé ces initiatives. Amazon a changé de président. Je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Andy Jassy est devenu le président de Amazon. C'était hier, lundi. Et avant qu'il parte, Jeff Bezos a fait... Alors, d'une part, il y a plein de vice-présidents qui sont partis d'Amazon en disant « c'est n'importe quoi, on est super pas content de ce qui se passe ». Bref, mais ils ont ajouté deux valeurs corporate, qui, là, pour le coup, on parlait de capitalisme tout à l'heure. Ils ont ajouté à leurs valeurs corporate, ils en avaient 12. Alors attendez, faire du mieux qu'on peut pour être le meilleur employeur au monde et le succès et l'échelle amènent de grandes responsabilités. En gros, avec un grand pouvoir, de grandes responsabilités.
Ouais, c'est ça, ouais.
Autant, vous me connaissez, hein, j'ai tendance à dire le capitalisme a clairement des qualités et des avantages et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Autant enfin, c'est une évidence, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes, mais autant là, les principes de leadership d'Amazon, soyons le meilleur employé du monde et nous avons de grandes responsabilités, j'ai du mal à le voir suivi d'effets réels, ou peut-être peut-être qu'Andy Jassy va vraiment changer le style d'Amazon, on ne sait pas, on l'a vu par le passé, avec des sociétés qui ont vraiment changé après que leurs fondateurs soient partis ou que les équipes fondateurs soient parties, que ce soit Apple, Google, Microsoft, etc. Je ne dis pas que j'ai envie d'y croire, oui, mais j'y crois quand même pas. Je ne sais pas si vous vous dites que peut-être qu'Andy Jassy va changer les choses. Clairement, Amazon a de plus en plus un problème d'image, ce qui pose un problème beaucoup plus concret pour la société. L'image, c'est un vrai souci. Mais je ne sais pas si on peut croire qu'il va changer les choses chez Amazon. Est-ce que, Cédric, tu as une prédiction?
Ils vont lancer... ils vont peut-être lancer des Amazen, vous savez, les cabines, là, les espèces de cercueils verticaux dans lesquels les gens pouvaient s'asseoir.
C'est ça ?
Oui, mais version 2 mètres carrés pour qu'ils puissent s'allonger.
Très bien, peut-être, bravo.
Peut-être avec des toilettes pour qu'ils arrêtent de pisser dans les bouteilles.
C'est ça, exactement. T'imagines, ils vont autoriser des pauses de 1 minute et 30 secondes.
Le problème dans les entrepôts en question, ils avaient des pauses longues, hein, genre un quart d'heure, 20 minutes, enfin longues, tu vois, des pauses qui n'étaient pas juste une minute. Mais le problème, c'est que les entrepôts sont tellement grands que le temps de marcher aux toilettes, c'était 10 minutes. Donc, tu passais ta pause à revenir des toilettes. Bref.
Ouais. Après, blague à part, si on regarde, en ce moment, je suis en train de regarder très attentivement certains trucs d'Amazon. Amazon va avoir quand même un problème, on va dire, dans les 10-20 ans à venir. On sait très bien justement que les employés dans les entrepôts vont disparaître petit à petit avec la robotisation à marche forcée d'Amazon une fois que le seuil de rentabilité sera atteint. Et du coup, ils vont avoir un vrai problème de recrutement, c'est-à-dire la qualification du recrutement. Donc leur image de marque en tant que recruteur devient un enjeu vital, on va dire dans les 10 ans à venir, peut-être pas pour l'année prochaine, c'est clair. Mais dans les 10-20 ans à venir, ils ont intérêt à redorer leur blason. Parce qu'aujourd'hui, ça a une image, tu vas bosser chez Amazon, c'est comme quand on disait tu vas bosser au McDo à une époque. Mmh. Et d'ailleurs, je reprends l'exemple de McDo. McDo a eu des gros problèmes de recrutement pour trouver du personnel qualifié pour ouvrir des franchises pour tous les postes qui ne sont pas des postes manutentionnaires, on va dire. Donc,
et ils ont quand même dû changer leur image de manière drastique. Et
exactement. Et ils ont investi énormément d'argent dans le recrutement. J'ai fait des campagnes de pub pour le recrutement McDo à ma grande époque où je travaillais dans la pub. Et Amazon, il y a un truc, si vous observez bien, Amazon est complètement en train de changer. Je parle de Amazon Distribution, hein. Je ne parle pas des serveurs Amazon, je ne parle pas de tout leur business Internet. Je parle vraiment de j'achète des trucs sur Amazon. Amazon, comme je disais tout à l'heure, on y venait pour le prix. Aujourd'hui, on y vient pour le choix. Et les prix ont vachement augmenté sur Amazon. Pas sur tout, mais ils ont quand même vachement augmenté. Et Amazon est en train de changer extrêmement. Voilà, est en train de changer de stratégie. Maintenant, Amazon, ça va pas être vous trouverez jamais aussi moins cher que Amazon, mais ça va être vous trouvez tout sur Amazon et c'est livré ultra vite. Voilà.
Et là, on a une infrastructure qui est tellement compliquée à reproduire que pour le coup, la concurrence dont je parlais tout à l'heure, je ne sais pas d'où elle va venir. Donc, ça, c'est un vrai problème pour le coup, on est d'accord. C'est l'exemple que tu donnais tout à l'heure.
Donc, ce que je veux dire, c'est que la passation et le départ de Jeff, c'est plutôt une bonne idée, un bon move. Il y a un vrai changement de culture qui est nécessaire chez Amazon. Je pense qu'Amazon est un zénith et qu'il risque de retomber, en fait, s'il n'y a pas un changement de culture. Ce qui est, par exemple, si on prend une analogie, ce qui a été permis, hélas, par la mort de Steve Jobs chez Apple, mais moi, je crois vraiment que Apple n'en serait pas là où ils en sont aujourd'hui si Steve Jobs était encore à la tête du bousin, quoi.
Pas où ils en sont, on ne sait pas dans quel sens, mais oui, peut-être. Bah écoutez, il nous reste quelques news à couvrir rapidement. D'une part, on parlait de la vente par NFT du code source du web de Tim Berners-Lee, comme on l'évoquait tout à l'heure. Il a été vendu pour 5,4 millions de dollars. Donc, bah, ça s'est quand même assez bien vendu chez Sotheby's. Bah, moi, je dis très bien. Bravo, bravo Tim Berners-Lee. Il va avoir, je sais pas, peut-être 2-3 millions qui lui resteront après les impôts. Pour tout ce qu'il a fait pour le monde.
Il donne tout. Pardon, il donne tout à une association caritative.
Ah, c'est vrai, il ne le garde même pas pour lui ?
Ouais. Oh, non, non, il donne tout à une association caritative.
Quel homme admirable. Bon, il n'est pas dans le besoin hein, non plus, Sir Tim Berners-Lee, mais il n'empêche. C'est... Moi, je ne suis pas sûr que si demain je gagne. J'ai 3 millions dans la poche.
Mais là, on en est certain.
Mais moi, je suis certain que non.
Patrick, moi, tu poses la question.
Je lance un concurrent à Shopify. Voilà ce que je fais, moi. Avec 3 millions, je suis sûr que je vais aller très, très loin. Allez, quelques sujets politiques sur lesquels on passe rapidement. Il y a eu une nouvelle attaque de ransomware d'une société qui utilise un logiciel édité par une société qui s'appelle Kaseya, qui est en fait un outil de gestion de parc informatique et qui touche du coup des dizaines de milliers d'utilisateurs et qui a fait lever encore un ou deux sourcils à Joe Biden. C'est le groupe Revil, R-E-V-I-L, qui a lancé cette attaque. Je pense que maintenant, le FBI va s'y intéresser de très, très près. Je ne serais pas surpris qu'on voit dans quelques semaines arriver une news de démantèlement de Revil. Mais ils attaquent, continuent à attaquer. Ils demandent des millions et des millions. Bref, le rançon logiciel continue à faire des ravages. Vas-y.
Non, pardon, oui. Moi, ça m'a choqué de voir là, toute cette chaîne de magasins. Je crois que c'est dans
les
un
coop, pays en Australie.
Oui, coop.
En Suède.
Qui est complètement down. Ils ne peuvent plus vendre. Et je pense que quand les hackers commencent à toucher comme ça, bah, par exemple, la nourriture, là, le pouvoir est. Enfin, voilà, tu peux complètement démanteler un pays en bousillant sa capacité à nourrir sa population, quoi.
Ouais, les caisses enregistreuses ne fonctionnent plus, en fait.
Tout est gratuit, c'est pas grave, on peut quand même.
Ah bah voilà, il y a le patrickisme.
Le patrickisme va
tout sauver.
Si vous êtes touché par.
On va dire qu'ils prennent 0% de commission.
Mais vous êtes autorisé à laisser des sous sur le comptoir
ah ouais.
En estimant à peu près combien vous avez pris. Moi, je pense que ça ne peut que fonctionner. La base du Patrick, c'est la confiance.
C'est ça, tout à fait.
Et justement, à propos de confiance, le G20, enfin, 130 pays ont signé le deal sur la taxe globale de 15% sur les bénéfices des sociétés, les impôts de société, en fait, qui sont établis à 15% minimum. Alors évidemment, il y a des pays où c'est beaucoup plus, dont la France, mais c'est intéressant parce que l'Irlande n'a pas signé et a des impôts de société qui sont plus bas que ça, et ça a provoqué des problèmes très importants dans l'Union européenne parce que beaucoup de sociétés se sont établies là-bas. Il y a d'autres pays, mais c'est l'Irlande qui nous intéresse en particulier. Et évidemment, ça ne règle pas le problème tout de suite puisque l'Irlande n'a pas signé, mais ça met une certaine pression et puis ça règle d'autres problèmes, d'autres pays qui ont des impôts tellement faibles qu'ils attirent des sociétés. Un argument qui est intéressant, c'est que l'Irlande et d'autres disent « Oui, mais vous êtes gentils, vous êtes dans des situations géographiques ou économiques qui font que vous êtes intéressants de toute façon. Nous, on a besoin d'autres armes pour se battre à armes égales avec vous. » Ce qui est un aspect que je n'avais jamais vraiment considéré. C'est vrai que d'autres pays n'ont pas simplement, par une question de situation géographique, les mêmes atouts. Et peut-être que ça, c'est un outil qu'ils devraient pouvoir utiliser. Bon, je laisserai des gens plus intelligents que moi arriver à des conclusions sur ces sujets. Mais c'est un début de pression sur ces pays-là. Et ça va continuer à aller dans ce sens-là pour avoir moins de moyens pour les grandes sociétés de payer moins d'impôts en se délocalisant par des moyens d'optimisation fiscale parfois discutables.
Plus mal.
C'est, oui, je crois que ce n'est pas plus mal. On en parlait souvent dans l'émission. Et ce qu'on disait sur ces questions de...
public dans certains pays.
Peut-être. Oh, en Irlande, je suis sûr que ça ne va pas trop mal. Hein, mais,
Non, mais regarde en France. En fait. Avec les impôts, tout ça.
Mais
non,
on en, tu sais, le service public en France, il n'est vraiment pas si mauvais que ça. Hein, et je sais qu'il est de bon ton de... Oui. Oula. Il y a l'ami de mon fils qui est arrivé. C'est la première fois qu'il a quelqu'un à la maison. Je ne sais pas si vous entendez les petits qui crient.
On a entendu, oui.
Mais...
C'est léger.
D'accord. Donc oui, on en parlait souvent dans l'émission et on disait le problème de ces questions d'optimisation fiscale, qui ne sont pas de la fraude fiscale, il faut les régler au niveau légal. On peut pas aller leur reprocher à ces sociétés de suivre la loi juste comme il faut. Dans ce cas-là précis, il y a des cas où c'est plus discutable. Et je suis heureux de constater qu'on a là une vraie première étape pour corriger ce problème. Dans le même temps, Vladimir Poutine a signé une loi qui oblige toutes les sociétés tech qui ont des audiences de plus de 500 000 personnes quotidiennes en Russie à ouvrir des bureaux en Russie d'ici 2022. On imagine bien que ce n'est pas uniquement pour des questions d'optimisation fiscale qu'il demande ce changement. On se doute que quand il y a un problème sur un réseau social, par exemple, si Vladimir Poutine appelle le président de la société dans son bureau, je pense que c'est plus facile de leur imposer certaines choses que si le président en question est confortablement installé dans la Silicon Valley. Et puis un dernier sujet qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est celui de ce qui se passe en Chine avec leur mise au pas des grandes sociétés de la tech. Et c'est pour ça que j'avais intitulé cette section « Affaires politiques à l'Ouest et à l'Est ». Et ben, on a à l'Ouest certains trucs, à l'Est d'autres. C'est à l'Est d'autres. Et en l'occurrence, une énorme société dont vous avez sûrement entendu parler, Didi Xuching, je ne sais pas quelle est la prononciation, peut-être Xuching, qui a été interdit en Chine quelques jours après son lancement aux États-Unis à la bourse de New York. C'est une société qui est en gros le Uber de la Chine. Et ils ont un marché absolument énorme, vraiment monumental. Et la Chine a tout simplement imposé à toutes les places de marché, enfin pardon, à tous les magasins d'app, que ce soit l'App Store ou le Google Store et les autres, de retirer l'application pour des questions d'utilisation frauduleuse ou illégale des données privées. Alors, on pourrait se dire, ah oui, bah, c'est pas bien d'utiliser les données privées illégalement. Dans le contexte de la Chine et dans l'attaque qu'ils ont fait sur les grandes sociétés de la tech, on imagine que c'est peut-être un prétexte pour mettre au pas encore un géant de la tech. Et c'est vraiment plus qu'inattendu. C'est une grosse surprise et c'est un choc. Parce que c'est l'une des sociétés l'un des plus gros succès de la Chine, pas l'un des plus gros, ils en ont beaucoup, mais c'est vraiment un gros succès. Et le fait qu'ils disent simplement, OK, sortez-les de l'App Store directement, alors on imagine qu'ils vont négocier et puis qu'ils vont pouvoir revenir sur l'App Store, et les gens qui l'ont déjà téléchargé peuvent continuer à l'utiliser. Mais c'est un gros, gros coup, encore un gros, gros coup de du parti communiste chinois, qui, ceci dit, tient bientôt, si je ne m'abuse, son congrès et qui veut peut-être faire bonne figure et faire une preuve de force à ce moment-là, mais ce n'est pas la première fois qu'il tape sur la tech.
C'est une date anniversaire en plus. Hein, oui. Après, on le sait, hein, la Chine est un laboratoire du patrixme. ils essayent de concilier libéralisme et marxisme. On voit que c'est à ses limites hein, quand même.
Écoute, le principe de base du patrixme, c'est un leader absolu, mais éclairé. Donc, je pense qu'ils sont quand même dans les bonnes... Il faut qu'on puisse prendre des décisions. Si on était dans des démocraties patrixme, ça serait beaucoup plus simple de régler les problèmes de Facebook et de Twitter et tout ça. Quand vous avez une question, vous venez me demander. Mais oui, pourquoi on s'encombre de détails comme un système judiciaire, des lois, tout ça. Vous venez me demander, moi je vous dis ce qu'il faut faire, et si vous ne le faites pas, c'est le goulag. Mais comme je suis, vous dites, ah ouais, tout ça, mais maintenant ça rappelle Staline, c'est vraiment dangereux, tout ça. Peut-être que ça pourrait dériver dans d'autres cas, mais dans mon cas, vous pouvez me faire confiance.
Non. Mais non, tu es éclairé.
C'est ça, le leader éclairé. Bon,
exactement. Écoutez,
je pense que le patrixme est une doctrine qu'on pourra commencer à appliquer très bientôt avec un succès indéniable. Merci à tous de nous avoir écoutés. Jérôme et Cédric, j'ai passé un excellent moment avec deux tiers des Fabulous. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut être encore plus Fabulous en vous suivant sur Internet, Cédric De Luca, et non pas De Luca.
Oh, c'est le bordel.
Où est-ce que tu es?
Ouais, c'est le bordel, je suis partout, moi, je suis omniscient. En fait, toi, t'es éclairé, moi, je suis omniscient.
Tu es partout, mais... tu es omniprésent. Et peut-être aussi omniscient, toujours. Mais...
Ouais, peut-être aussi, oui. omniprésent, c'est effectivement ce que je voulais dire. Je suis sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/CédricDeLuca. Sinon, je suis aussi sur la chaîne du Studio Renegade, twitch.tv/StudioRenegade. Et voilà. Et sinon, le plus simple, c'est Twitter encore. Hein. @CédricDeLuca avec le chiffre 2 pour le DeLuca.
Histoire de brouiller les pistes. Et donc, on peut te retrouver sur Studio Renegade, effectivement. Et le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Merci beaucoup, Cédric.
Merci à toi.
Jérôme, où es-tu sur Internet?
Eh bien, vous pouvez me retrouver sur le site Résistance au Patrixme que je viens de monter. non, au dictat éclairé.
L'anti-Patrixme.
L'anti-Patrixme. non, sinon, vous pouvez me retrouver sur Nowtech, la chaîne YouTube. Twitch, on a mis en pause estivale notre mug du matin. Il n'y a plus qu'un mug par semaine. Mais il y a plein d'autres lives qui vont arriver pendant l'été. On expérimente des choses. On a lancé une émission de téléachat complètement débridée, le Twitch achat.
Le Twitch achat qui est formidable avec un habillage d'une qualité incroyable.
Ah, puis tu parles d'habillage, attends de voir mes chemises d'été. je spoil un petit peu. Et justement, que je présente avec Guillaume qui rejoint la chaîne de manière plus permanente.
Voilà. Ah, eh bien écoute, félicitations à lui et à la chaîne. Je suis très heureux pour vous et pour lui. On aura le lien vers ton compte Twitter, évidemment, dans les notes de l'émission. Et pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Si vous voulez tous les liens vers tout ce que je fais, c'est sur notepatrick.com. Vous retrouvez les podcasts que j'édite, notamment Super Laser Punch, où on fait des after-shows Marvel. On parle beaucoup de la série Loki en ce moment, et il y a Black Widow qui arrive très bientôt, on en parlera également. Et si vous voulez suivre toutes les doctrines du patrixme, vous pouvez aller sur Twitter, Facebook ou Instagram avec NotePatrick comme nom de compte. Vous retrouverez tout ça là-bas. Je pense que le patrixme a un bel avenir devant lui. On vous fait de grosses bises. Comme je le disais, il n'y a pas d'after show aujourd'hui parce qu'il y a les petits qui sont arrivés. C'est l'anniversaire de l'un d'entre eux et c'est le foutoir total. Et pendant les vacances d'été, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Mais on sera de retour très bientôt. Je vous fais de grosses bises. Merci à la chatroom de Twitch qui a été là. Comme vous le savez, on enregistre le mardi à midi en live sur twitch.tv/dites-le avec moi, NotePatrick. Voilà. Et si vous voulez soutenir l'émission, c'est patreon.com/rdvtech. Et quand vous rentrez chez vous, que ça fasse cling ou bzz, vous pensez à Patrick. Quand ça fait bzz, pensez à Patrick, mais en tout bien tout honneur, hein, nous sommes d'accord. Merci à vous tous et à vous toutes. On se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.